Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Allez, par le bout de la lorgnette, troisième émission. Bien le bonjour à tout le monde avec dans ces studios aujourd'hui. Valérie qui est toujours là. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour.
Bonjour Héloïse.
Salut.
Et Nico également.
Ben bonjour à tout le monde.
Oui, bonjour à tout le monde. Une troisième émission. On va parler aujourd'hui de cuisine, entre autres.
Oui. On met déguste même en direct.
Voilà, on déguste en direct. Alors il y a la vidéo qui n'est pas encore sur internet, mais vous pourrez la retrouver. On vous parlera de ce qu'on est en train de manger de toute façon avec Valérie qui a préparé toute la matinée des bons petits plats.
On ne fait que manger d'ailleurs, on ne boit pas.
Voilà, on ne boit pas, on mange seulement.
On ne boit pas.
Il n'y avait pas la place de tout poser sur la table, donc on dégustera après.
Bon, après aussi.
Tant pis pour les auditeurs. Ah, voilà.
Je suis un peu déçu.
Oui, je sais.
Alors au programme.
Aujourd'hui, tout d'abord, Héloïse, on va un peu parler de ce marché du livre de cuisine. Ce marché, déjà, est-ce qu'il est important spéciale.
Oui, en effet, on va beaucoup parler de livre de cuisine aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un secteur intéressant. Il y a des très beaux ouvrages qui sont publiés et vous l'avez peut-être remarqué, ces cinq dernières années, on est inondé par les livres de cuisine, c'est vraiment la grande mode. Et je m'appuie là sur un article de Livre Hebdo, du dernier Livre Hebdo, sur le marché de la cuisine. Et donc c'est un marché qui s'essouffle petit à petit et les éditeurs en fait vont se retrancher maintenant sur des beaux livres, presque des livres d'art de cuisine, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, ouais.
Des livres, il y en a beaucoup de livres de cuisine différents, de différents auteurs, de différentes maisons d'édition, de différents types de cuisine.
Oui, tout à fait. Après, il y a des maisons d'édition qui ont quasiment le monopole sur ce marché pratique du livre de cuisine. Par exemple, Marabout, Hachette Pratique, Mango, enfin voilà, ce sont des maisons d'édition qui ont sorti beaucoup, beaucoup ces cinq dernières années. Et qui ont lancé des effets de mode, par exemple Cuisine à New York, le mug cake, le cupcake, ça va par vagues. Mais maintenant, ça s'essouffle, en fait, le marché s'essouffle. Donc, ils se retranchent sur vraiment des beaux livres, des livres de chefs avec une belle fabrication, des productions originales. Et ça fait du bien.
Parce qu'il y avait beaucoup, à une époque, de livres, on dirait, pratico-pratiques. C'est des livres avec des recettes, des tendances. Donc, cet été, on a vu Barbecue et Plancha et compagnie. Hein, énormément sur tous les étals. Donc là, on a vraiment des maisons qui sont spécialisées là-dedans.
Oui, d'accord. Tout à fait.
C'est nouveau ou pas? Parce qu'on sait que ça revient à la mode, notamment avec beaucoup d'émissions de télé-réalité qui parlent de la cuisine. Il y a un renouveau ou en fait, ça a toujours marché, sauf que...
Alors, les livres de cuisine ont globalement toujours marché, seulement c'est la production, en fait, ces cinq dernières années qui était vraiment énorme. Par exemple, en 2013, il y a eu 2000 à peu près livres de cuisine qui sont sortis. C'est énorme, alors qu'avant, on se concentrait vraiment sur des livres de chef, le livre de Maïté, le livre de Robuchon, et voilà.
Tu parlais de chef, livre de Maïté?
Non, enfin, chef et émission de télé.
Non, mais j'ai rien contre Maïté, je pense que voilà, c'est une boutade.
Dans une librairie mandoise en milieu rural comme la tienne, ça marche beaucoup les livres de cuisine?
Alors, chez moi, on ne peut pas dire que ce soit le rayon qui marche le plus, mais je tiens à l'avoir parce que j'adore cuisiner, j'adore les livres de cuisine, et il y a plein de choses très belles. Après, c'est pas moi, c'est la littérature qui marche le plus.
Nico, tu as lu un livre de cuisine et tu as même essayé peut-être des recettes?
Alors oui, j'ai essayé des recettes avec mon fils. Alors c'est vrai que c'est un livre particulier donc, que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. Donc, ça s'appelle Fat and Furious Burger. En fait, c'est un livre qui est spécialisé dans les hamburgers, mais de façon très drôle, puisqu'en fait, avec énormément d'humour, il a essayé de traiter en fait, le burger... sous la forme de soit de thématiques, soit d'environnement, soit de style. Donc par exemple, on a le Gothic Burger, on a le Cocktail Burger, on a le Canigule Burger, on a le Bloody Burger. Et à chaque fois, le texte qui est associé donc au type de burger. Donc à chaque fois, par exemple sur le Bloody Burger, on voit en fait que c'est un burger avec des dents. Donc à chaque fois, il s'est amusé. Des dents de vampire et du ketchup qui
dégouline.
Qui dégouline comme du sang. Et donc on a à la fois l'image qui est très présente dans le livre et qui décrit vraiment véritablement bien une situation. Et à côté, on a le texte qui est traité à la façon. Voilà. Donc par exemple, Bloody Burger, il débarre le texte en disant « Tu as invité des vampires à dîner. Mauvaise idée. Ce sont des gens charmants, mais ils ont une fâcheuse tendance à vider leur hôte de leur sang en guise de digestif. » Une fin de soirée déplaisante que tu pourrais éviter en servant ce délicieux burger tartare. Et donc, il te donne la recette, mais écrit à la façon vampire, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Ah, c'est intéressant. Ouais.
Et donc, on en a plusieurs. Alors, il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est le Akhenaton Burger. Mm-hmm. Mais je vous propose de le découvrir sous la forme d'un petit rap. Yo, mon frère, t'as mis tes poils de torse et enfilé ta chaîne en or qui brille ? Direction Planète Marseille pour l'école du burger d'argent. Akhenaton Burger. Ton gros ton cru, frère, qui se repose dans une assiette noyée dans le jus de citron, du sel, du poivre en miettes. Le pastis de ta province et les herbes de ta Provence, tu le laisses mariner au frais, mais est-ce que tout ça a un sens? Ta grosse sauce aioli, man, tu dois la faire vaille que maille. Tu chopes le mortier de ton père et tu me piles les gousses d'ail. Akhenaton Burger. Par sel et poivre, se lance dans la bataille. Peu à peu, l'huile se mêle en mince filet à la mitraille. Tu te rappelles, cousin, du fouet violent des gros caïdes? À toi de fouetter enfin, fais gicler le vinaigre acide. Akhenaton Burger. Découpe ton aubergine, cousine, en tranches bien affinées. Fais revenir le feu vif avec masse d'huile d'olive et d'ail mincé. Quand l'aubergine est cuite, à cœur et un peu brune, nie, ma Carla. Laisse cuire à feu doux jusqu'à évaporation avec un trait de soja. Akhenaton Burger. Monte ton gros burger, ma soeur. Pour ton bled de Marseille. D'abord le basilic, puis les tomates séchées, c'est chic. Dépose ton cœur d'artichaut coupé en deux, c'est bien plus beau. Ajoute le thon mariné et les aubergines grillées. Recouvre avec ton aioli, bébé. Ça y est, c'est prêt. Tu vas déguster. Akhenaton Burger.
Oh oui. Bravo.
Merci, c'est un bel effort. Donc ça, c'est un rapport assez connu hein, dans le milieu rural qui a bien voulu nous faire cette découverte donc de ce très beau livre qui est à la fois un livre sympa, drôle, parce qu'en fait, il a vraiment joué les jeux, il était vraiment au fond de l'idée, donc c'est vraiment sympa. Et en même temps, c'est un vrai livre de recettes. Donc celui-là, on va le faire ce week-end.
Voilà, donc Akhenaton qui a enregistré en fait la recette qui est écrite sur le livre. Voilà, comme ça donne une idée à nos auditeurs du style d'écriture pour présenter ces burgers.
Voilà, tout à fait. Donc si vous voulez réécouter bien sûr ce morceau, hein, il sera en vente sur iTunes.
C'est un inédit. Ouais. En tout cas, t'as tes entrées hein, pour avoir accès à Akhenaton, tout le monde les a pas.
Et oui, je sais.
Bravo.
Voilà, très beau livre que je vous conseille. De lire.
Tu as testé lequel, toi, sinon tu en as testé un ou pas
Non, je n'en ai pas testé.
Tu n'en as pas testé.
On va le faire ce week-end avec Pablo. Voilà.
Et c'est vrai que c'est un très beau livre et les photos sont magnifiques. Et il y a une expo à Paris en ce moment de ces photos qui sont des vraies œuvres d'art, en fait, au Perchoir à Paris.
Voilà, c'est un livre en A4, hein, le format. C'est un grand livre. Donc, on le rappelle, Fat and Furious Burger, jeu de mots qui concerne ce célèbre film que je n'ai jamais vu et que je ne verrai jamais, aux éditions
Michel Lafon.
Allez, voilà. Super. Alors, Valérie qui a passé sa matinée à cuisiner, mais qui a oublié d'allumer son four. Voilà, on balance.
C'est pas beau.
Oui, c'est pas beau. Donc, les cupcakes.
Non, c'était pas des cupcakes. Ah,
c'était pas des cupcakes.
J'étais partie pour vous faire une recette extraite du livre Crimes et châtiments. Recette délicieuse et criminelle d'Agatha Christie.
Crèmes et châtiments.
Il y a des jeux de mots dans la cuisine hein, depuis le début.
Ouais. Et c'est un livre qui a été écrit par Anne Marinetti et François Rivière avec des très jolies photos de Philippe Assé. C'est un livre de recettes aussi, mais qui a l'originalité de reprendre toutes les recettes que l'on va trouver dans les livres d'Agatha Christie. Il faut savoir que dans les livres d'Agatha Christie, il y a beaucoup de meurtres qui se passent suite à un empoisonnement dans la nourriture. Je vous rappelle que vous avez mangé des choses que j'ai amenées. Voilà.
Et ouais, vas-y, prends un peu plus, Nico.
Déjà, dès le sommaire, dès qu'on ouvre le livre, le sommaire est super, puisque les présentations donc, du sommaire, on va avoir la double crème du crime. Breakfast à Torquay, les délices de Greenway, les douceurs d'Hercule Poirot, qui, pour la petite parenthèse, déteste tout ce qui est British en nourriture. Et toutes les recettes...
Il a bien raison.
Non, il a tort, justement.
Ah bon?
Là, je vais redonner
du crème crédit. À la menthe sur un roast beef.
Oui, mais ouais. C'est un leurre. Demandez aux Anglais, est-ce qu'on mange tous les jours du foie gras? Non. Donc, ils ne mangent pas tous les jours de l'agneau poché à la menthe.
Par contre, ils mangent tous les jours une espèce de gelée immonde.
Ah, ça, c'est
la marmelade, Nico.
Non, la jelly, avec les petits pois qui flottent dedans. Voilà, mon amie anglaise doit être très heureuse d'entendre ce que vous dites sur sa cuisine.
Et c'est vrai qu'on n'est pas trop roast beef, nous, quand même.
Ouais,
hein.
Non. Si, mais à point où c'est bien. Mais qu'elle vienne dans 2 semaines nous apporter, justement, de la nourriture typique anglaise pour nous faire changer d'avis.
Pourquoi pas?
Voilà.
Alors, peut-être dans 4.
Et qu'elle pense à allumer son four.
N'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Une heure et demie, la cuisson du lemon cheesecake que vous auriez dû avoir. Voilà, donc les recettes, ce sont toutes des recettes anglaises, en fait, enfin d'outre-Manche. Ça va du sucré au salé, et chaque recette est accompagnée d'un petit extrait d'un des livres d'Agatha Christie. Là, si je prends par exemple la recette des muffins, il y aura un extrait du livre Le Vallon, et après, en dessous, les auteurs vont expliquer pourquoi, à ce moment, ils ont choisi telle recette. On a des recettes sucrées, salées, et ça réhabilite complètement la nourriture anglaise. Il y a des très belles recettes, que ce soit du sucré, du salé, du thé, de la confiture, de la marmelade.
Ah, sur le thé, ça me plaît bien.
Ouais. Et c'est chaque fois, bon, il y a des très belles photos, c'est des recettes assez simples à réaliser. Mais très, très classique, là. On a le Yorkshire pudding. C'est un accompagnement que nous, on pourrait appeler légumes, qu'ils mettent avec la turkey quand ils cuisinent la volaille. Et c'est vraiment des recettes typiques. Et elles sont un peu... comment dire? Quand on les fait, on se dit « Waouh, je suis en train de faire une recette d'Agatha Christie. » Donc, on vérifie dedans si on n'a pas un peu d'arsenic, un peu de cyanure, enfin... Il y a ce côté mystérieux, en fait.
Donc, tu peux faire, à partir de ce livre, toute une soirée Agatha Christie.
Et je l'imagine très bien, ce livre de recettes.
Tu invites tes ennemis, quoi, en fait.
Non, parce que, justement, on sait ce qu'on a mis dedans. Mais imaginez, il se passe des fois des soirées à thème, en fait, où on va jouer à Agatha Christie. En fait, on va inventer un meurtre. Il va falloir trouver qui est le coupable. Et ça se passe pendant toute une soirée. Et j'imagine très bien ce livre comme étant la base des recettes pour cette soirée.
D'accord.
Et c'est richement illustré. Il y a aussi, quand même, avant chaque chapitre, les auteurs parlent un peu de la vie d'Agatha Christie, parce qu'il faut savoir que c'est pas anodin si elle parlait beaucoup des meurtres, enfin dans la nourriture, c'est qu'elle adorait manger. Enfin, puis ça se voit sur les photos, elle avait un peu le même profil que moi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est la crème.
Vous pouvez nous retrouver en vidéo.
N'est-ce pas?
Voilà. Faudra afficher ton profil, par contre.
Ouais, mais bon.
Ouais, c'est intéressant, Héloïse, sur les 2 premiers livres, on voit qu'en fait, au final, il y a tellement de livres que pour se démarquer, on est obligé de trouver des niches, d'être
oui, voilà, c'est ça,
dans
c'est
l'originalité.
D'être inventif aussi.
Ouais,
oui. Mais c'est vrai dans la création en général.
Oui, mais c'est ça reste créatif. Étonnant pour les livres de cuisine. Moi qui n'en achète jamais, j'imagine des livres de cuisine comme, voilà, il y a une recette, une photo, on l'a fait et ça s'arrête là.
Non, maintenant, l'humour est très important, ouais, dans les livres de cuisine. Il faut vraiment se démarquer et... C'est pas plus mal.
Alors, on rappelle donc Crème et Châtiment.
Recette délicieuse des criminels d'Agatha Christie.
Et c'est aux éditions du Masque, les éditions du Masque qui éditent aussi les romans policiers d'Agatha Christie.
Exactement. Ah oui, ils se sont mis à proposer des livres de cuisine.
Ça, on reconnaît sur la couverture, on reconnaît un peu le style des livres.
Hein, c'est jaune et noir. Ouais, ouais. C'est tout à fait ça.
Alors, cette présentation était tellement intéressante, Valérie, qu'on va rester avec toi
avec plaisir.
Un dîner en musique.
Ah, superbe. Superbe dîner en musique.
Qu'est-ce que le dîner en musique?
Le dîner en musique, en fait, c'est un livre de recettes aussi, puisqu'on continue dans le thème des livres de recettes, qui n'est pas musical. Mais en fait, ce sont des livres de recettes qui reprennent toutes les habitudes alimentaires de 10 grands auteurs classiques. On a Chopin,
Beethoven, Schubert,
voilà. Rossini et son tourne-dos.
Christophe Maé.
Pardon, tu...
Christophe Maé.
Ah, ça fait mal, c'est trop chaud.
Non, pas du tout. Pardon, vas-y, alors... continue.
Voilà, ouais, d'accord. Ah, ça y est, la... Céline Dion, non? Tu veux pas nous faire Céline Dion?
Les chocolats, non, je pas. Les chocolats noirs. Allez, à la moutarde, comment ça fait?
Il faut une frite, s'il te plaît. Dans 2 mètres de neige, ouais. Céline Dion qui parle.
Très bien, ça. Ouais, très super. Bien, Nico.
Oui. Mais avec des raquettes, c'est toujours plus facile.
Mais tu es très enfant. Akhenaton, ouais. Céline Dion.
Chut, faut pas dire c'est lui, Akhenaton. Tu vas décevoir nos auditeurs.
Comment ça, c'est lui?
Non, 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 on n'a rien entendu.
D'accord. Ouais. Alors, un dîner.
Voilà, un dîner en musique, 30 recettes pour les mélomanes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il était préfacé par Michel Blanc. Et c'est très, très intéressant parce que il a toujours sa petite pointe d'humour avec un grand sérieux. Les recettes ont été faites par Michel Porto, qui est un restaurateur qui a eu 2 étoiles dans son restaurant en Gironde et qui est maintenant sur Marseille.
C'est un pote à Aramis, non?
J'ai dit Porto, j'ai pas dit le S exprès pour pas qu'on me reprenne.
Porto, il est Porto. Porto. En plus, il fait. Voilà,
remarque, tu appelles Brasse-Bras, donc c'est pour ça, les S, t'as des problèmes avec les S. Ouais. Je dis ça par rapport à l'agenda culturel de cette semaine, c'était intéressant.
Peut-être.
Avec Michel Bras.
On dit Michel Bras?
Non, non, Brasse. Du tout. Brasse. Non, non,
Brasse. Brasse.
Comme la nage.
En tant qu'Aveyronaise, je.
Ouais, moi, je dis Bras, je Michel Brasse, c'est tout.
Donc. Recentrons-nous sur ce livre, voilà. S'il vous plaît.
Parce qu'on a du mal un peu. Hein.
Ouais, c'est difficile. Mais c'est le chocolat, je crois que ouais, finalement, tu as raison.
C'était pas de la moutarde.
C'est magnésium dans le chocolat.
Je commence à la sentir, la moutarde. Voilà, parce qu'il faut préciser, on est en train de goûter du chocolat à la moutarde que Valérie nous a amené, ou de la moutarde enrobée de chocolat noir plutôt. Je sentais pas la moutarde au début, et là, au bout du dixième, on le sent. Hein, Louise, tu le sens?
Oui, oui, ça pique.
Alors, c'était bon au début, là, ça commence à piquer. Je me suis dit, t'as mal à la gorge, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord.
Voilà.
Alors,
pour en revenir au livre, moi je m'étais jamais posé la question du lien entre la musique et la gastronomie. Puis après, j'ai repensé à un outil indispensable qu'avaient les musiciens et les cuisiniers, c'était le piano. Et je me suis dit, mais ce livre était idéal, puisqu'en plus c'est sur des auteurs de musique classique. On a Rossini, il avait son petit tourne-dos. Enfin, voilà. Et c'est très original dans la description des recettes, puisque c'est classé par auteur. Et chaque recette est accompagnée d'une explication. On a par exemple les gnocchis sucrés façon George Sand, qui était le plat préféré de Frédéric Chopin. Donc ça décrit la recette. On a la recette de cuisine basique, comme tout livre de recettes de cuisine. Mais on a l'explication aussi pourquoi cette recette. Et ils écrivent un petit peu, ils détaillent un petit peu aussi la vie de Frédéric Chopin et la rencontre avec George Sand. Voilà,
tout ça est très intéressant. C'est rempli d'anecdotes assez croustillantes, alléchantes. Et moi, il y a Beethoven, par exemple, qui a quémandé de la compote de cerises et du champagne 3 jours avant de mourir par lettre. Enfin, voilà, c'est des petites anecdotes, des détails comme ça qui sont assez intéressants. Et oui, donc c'est intéressant dans le rapport entre musique et cuisine. Et je voulais vous dire que c'est le 16 décembre, justement, chez Cyril Atrazik, je ne sais plus comment s'appelle son restaurant.
Chez Camillou.
Chez Camillou. Le TMT de Marvejol organise...
oui, qu'on a annoncé déjà.
Oui, donc avec un DJ. Donc là, ce sera plus de la musique électro et donc en rapport avec la cuisine d'Atrazik. Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
C'est vrai que c'est un livre. C'est pareil quand je lis des livres, j'essaie de me dire à qui je pourrais l'offrir. Et j'imagine très bien une maîtresse de maison qui reçoit donc ses invités. On est quand même sur des recettes assez classiques. On n'est pas sur du Akhenaton burger.
Salade d'asperges vertes, par exemple.
Enfin, des gnocchis sucrés, c'est pas super classique.
Tarte au citron.
Non, ce sont des recettes. J'allais dire, on n'est pas sur, par exemple, sur les burgers ou sur le. Enfin, par rapport au livre des proches, on n'est pas sur les mêmes types de recettes.
Ce qu'il faut expliquer peut-être aussi, c'est que l'entrée, elle n'est pas par plat, elle est par.
Par compositeur.
Par compositeur.
Ouais.
Donc c'est intéressant. Mm-hmm. Voilà.
Avec des explications, voilà. Et c'est vrai que j'imagine très bien une maîtresse de maison recevoir ses invités et avoir à raconter pourquoi est-ce qu'elle elle a mis ce plat. Ouais. Et,
risotto à la moelle, par exemple, avec, elle vous fait découvrir ça avec la musique de Rossini.
Un accompagnement derrière la musique de Rossini.
Non, mais c'est vrai que c'est une vraie belle idée. Voilà. Et la préface est...
De Michel Blanc,
extraordinaire. Hein.
Voilà, tu l'as lu, elle est super.
Elle est géniale. Voilà. Voilà.
Il fait un petit clin d'œil en disant on devrait choisir
un petit bémol, etc.
On devrait choisir sa musique de repas, comme on va choisir un vin pour accompagner. Et c'est, voilà, c'est très très bien fait.
Et ça puis des sommeliers qui seraient en musique, ils appelleraient ça des musicaliers, et donc qui vous feraient déguster des vins
accompagnés de musique.
C'est que plat ou on conseille des vins avec?
Non,
dans les différents livres. Non, c'est juste les recettes. Les huîtres, c'est quoi, Nico?
Alors, l'huître plate crémeuse de vin blanc de Moselle. Mais à part le fait de dire. Alors là, par exemple, sur celui-là, c'est beaucoup
de. Francis Cabrel. C'est Beethoven. Taureau à la gardienne, Francis Cabrel.
Ouais.
Ok, donc on rappelle alors, ça s'intitule.
Un dîner en musique.
30 recettes pour mélomanes.
Et c'est chez Buchet-Chastel.
Voilà.
Très bien. Et Louise, tu nous parlais de Pierre Desproges à l'instant. Donc c'est Valérie qui disait c'est complètement différent de Pierre Desproges. Pourquoi Desproges, la cuisine? Qu'est-ce que c'est ce livre?
En fait, voilà, ça s'appelle Encore des nouilles. Et c'est Desproges. On change de registre.
C'est une contrepétrie, là? Non? Encore des nouilles?
Répète-le plusieurs fois.
Je cherche la contrepétrie.
Et donc,
énorme couille.
Ah oui, oui. C'est ça. Enfin, c'est
donc
ça.
Tout expliquer. Oui. Bon,
ça, moi, j'ai pas entendu.
L'esprit potage de Desproges, effectivement.
Ah ben ouais, à la fin.
Et en fait, c'est un recueil de chroniques qui n'avaient jamais été rassemblées encore, et c'est des chroniques qu'il avait écrites pour le magazine Cuisine et Vins de France. Entre 84 et 85. Et donc, il faut savoir qu'à l'époque, c'est vrai, Cuisine et Vins de France, c'était un magazine un peu prestigieux, lu par une certaine classe de population. Enfin, voilà. Et lui, il débarquait dans ce magazine avec toute sa réputation un peu sulfureuse. Il bossait pour Harakiri. Déjà, enfin, on le connaissait déjà pour ses, un peu ses dérives humoristiques que tout le monde n'appréciait pas. Et donc, il débarque dans ce magazine et il fait une chronique, en fait, tous les mois. Et il faut savoir que Desproges, il était vraiment passionné de cuisine et de vin. Il avait une cave, par exemple, avec plus de 1000 bouteilles. Et c'était un vrai passionné. Donc, il y a de l'humour, il y a son humour habituel. Et ça décrasse un peu le genre de la chronique simple et carrée de cuisine. Et mais il y a quand même en fait tout un savoir-faire et en même temps une humilité par rapport aux choses qu'il ne connaît pas. Enfin, c'est des très belles chroniques, c'est très drôle. Et il y a par exemple un passage, un tout petit passage.
Ah, même des dessins. Hein.
Oui, en fait, il faut savoir, c'est un livre qui a été illustré par plusieurs dessinateurs, par Charb, Luz, Wolinski. Donc.
Oui, on trouve le trait. Hein.
Oui. Ça s'appelle Aqua Simplex. En serrant les dents, il m'arrive couramment de supporter sans broncher la misère effroyable du tiers-monde, la menace imminente d'une lumineuse apocalypse thermonucléaire, voire même l'inamovible sottise des cuistres subjurétiens au pouvoir chez nous depuis que la rose a remplacé le fumier qui la fit éclore. Mais la compagnie d'un buveur d'eau, non, décidément je ne puis m'y faire.
Pinar Akbar, il fait, c'est ça?
Voilà, c'est un dessin de qui? De
Pinar Akbar.
Donc il n'y a pas de recette dans celui-là?
Alors si, il donne des recettes personnelles, des vraies recettes comme des recettes qu'il invente aussi. Par exemple, on a la recette de la cigale Melba. Comptez une douzaine de cigales de la Havane, ce sont les meilleures. Enfoncez les vivantes dans un teckel que vous aurez préalablement muselé pour éviter les morsures. Jetez le teckel dans un faitout avec 2 litres d'eau salée. Quand l'eau frémit, le teckel aussi, etc. Voilà.
Alors, ne refaites pas ces recettes de cuisine, il faut préciser.
Non, il y a des recettes aussi qu'on peut faire aussi.
Ah, il
a inventé ces recettes, notamment d'apéro.
Il ne faut pas les prendre au pied de mouton, au pied de la lettre.
Oui, c'est ça.
Donc voilà, c'est une autre facette de Desproges. C'est vraiment très intéressant.
Desproges, il y a multifacettes,
Et du coup, on le trouve chez toi dans les rubriques de cuisine ou c'est
en fait,
c'est difficile à placer?
C'est difficile à classer, effectivement. Moi, je l'ai mis avec les autres livres de Desproges que j'ai, les autres chroniques humoristiques. Après, bon.
Ok. Desproges, donc je ne me trompe pas dans le titre, Encore des nouilles. c'est chez...
Aux éditions Les Échappées.
Les Échappées, d'accord.
T'es bien débrouillé.
Voilà, je me suis bien débrouillé. On va parler de magazines aussi, parce que cette émission parle de magazines, des magazines culinaires. Il y a un magazine qui s'appelle 180 degrés.
Voilà, oui, j'avais envie de vous parler on appelle ça un MOOC, parce que c'est un très gros magazine qui sort tous les 4 mois. Il y en a 4 dans l'année. Et donc, c'est très...
4 très... mois, 4 fois 4, oui, 16. Je... Oui, les, il faut savoir que les années chez Louise sont rallongées.
Elle dure un peu plus longtemps.
En fait, elle a 68 ans, mais elle le cache très bien.
Alors, 180 degrés.
Donc, 180 degrés, donc c'est un pavé de 200 pages. Et ça, donc, le sous-titre du magazine, c'est Des recettes et des hommes. Et effectivement, il y a des très beaux portraits de cultivateurs, d'agriculteurs, de fabricants de fromage, de cuisiniers. Il y a aussi pas mal de recettes, mais c'est vraiment. On touche vraiment l'humanité de la cuisine. C'est-à-dire, il y a vraiment des reportages où on court sur des personnalités. Et c'est vraiment très intéressant.
180 degrés, c'est la température moyenne, ça, de cuisson, en général, dans un four. C'est
ah, je sais pas.
Faut demander à Valérie.
Ouais. Moi, je mets toujours tout à 180 degrés, que ce soit un rôti, un machin. Non, après, c'est la durée qui change tout.
Voilà, moi, je ne mets cuit pas fort et très longtemps. Voilà.
C'est une technique. C'est les bonnes cuisinières, ça.
Voilà. Oui, mais il y a des viandes qui ont. Il faut les saisir.
Sauf quand il faut saisir, après, tu peux snacker.
Voilà. Moi, je mets à 200 à fond, quoi, pendant 10 minutes, puis après, je baisse.
Après, c'est cramé. C'est pas snacké, c'est cramé.
Ah, exact. C'est pour ça qu'on...
Moi, je sais pas, j'ai juste des numéros sur mon four. Je mets sur 8 ou 7.
D'accord. Je croyais que t'allais dire 800, 1000 sur mon micro-ondes.
Non. C'est un livre qui a beaucoup de photos, beaucoup de pages. 19,90 €, j'ai vu.
Oui, c'est très beau, très abouti au niveau de la maquette, du graphisme. Ah,
Et puis c'est cossu quand même, hein, c'est bien fini. Il y a un pelliculage là. Sur,
donc en fait, c'est un mélange de reportages autour de la cuisine, de recettes.
Voilà, tout à fait, oui.
Il y a un reportage sur les gitans qui cuisinent, qui est vraiment bien. Et c'est une immersion en fait de deux journalistes dans la vie des gitans et vers Pau, si je me souviens bien. Et en fait, ils découvrent les habitudes culinaires, la façon de cuisiner, tout ce qu'ils cuisinent comme viande.
Donc, le hérisson n'est pas un mythe.
Voilà.
Ah ouais, d'accord.
Mais c'est un repas de fête.
Il y a des commentaires sympas. Ça, c'est par exemple. Je tombe sur un truc qui me plaît beaucoup là. Calmar à la plancha, ail nouveau et piment rouge. Et il y a marqué point fort et point faible. Alors, le point fort, c'est bon à se damner.
Ouais.
J'ai mis les commentaires. Point faible, fraîcheur 3 étoiles, indispensable. Ouais. Cuisson courte aussi, très indispensable. Mais c'est vrai que c'est assez contemporain, assez moderne comme traitement quand même.
Et c'est très varié comme recette à l'intérieur. Ça va aller du veau du Ségala jusqu'à des cuissons de poisson cru. C'est très très varié.
Donc, c'est un beau livre. Hein, c'est un beau livre.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc le prochain là sort bientôt, courant octobre.
Ce sera pour automne hiver.
Ça blé aux prunes et crème de pistache.
C'est en fonction des saisons, pas
oui,
du tout.
Oui.
Oui, c'est ça. Les 4 saisons.
Non, les 8 saisons.
Les 8 saisons.
Les 8 saisons de Vivaldi.
Il y en a. On le retrouve où? Dans les maisons de la presse.
Oui, maisons de la presse, librairie aussi, oui.
D'accord, très bien. Donc on rappelle 180 degrés, 4 par an. Vous débrouillez avec ça. Des recettes et des hommes. Très bien, on va faire une petite pause musicale avec Parov Stellar. Pourquoi cette chanson, Héloïse?
J'adore, c'est un DJ autrichien. C'est très sympa à écouter, un peu années 30. J'aime bien.
Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. On a parlé de cuisine dans cette première partie d'émission par le bout de la lorgnette. De quoi va-t-on parler maintenant, Nico ?
On va parler de Nicki Tsinfal. Alors, à la fois à travers deux livres, enfin, surtout un livre, là, une réédition. Donc, un deuxième tome, t'as la bouche pleine. C'est gênant, hein. C'est gênant. Alors, pour faire la transition, Nicki Tsinfal, qui est Nicki Tsinfal ? Nicki Tsinfal, c'est une autodidacte, artiste, qui a une vie très compliquée, une enfance violente, puisqu'elle a été violée à l'âge de 11 ans. Elle a utilisé en fait l'art comme thérapie pour sortir de ça. Elle a eu un premier mariage où elle a eu deux enfants avec un Américain. Et ensuite, elle est revenue en France. Et en fait, son histoire aujourd'hui en témoigne beaucoup plus de sa relation avec Jean Tinguely, celui qui faisait les constructions en mobile, en 2D au début, puis après en 3D, et qui a créé énormément de sculptures mécaniques. Voilà. C'est la période Jean Dubuffet, 1955. Elle rencontre Jean Tinguely en 1955. Elle se marie avec Jean Tinguely qu'en 72. Voilà. Donc pendant toutes ces années, ils vont partager, puis bon, elle tombe amoureuse de lui. Il y a un travail énorme entre tous les deux, une espèce de violence qui se font, qui est une espèce de compétition en fait. Ils se lancent des défis sans arrêt, et donc ils vont aller très très loin. Elle est très connue, Nicki Tsinfal, pour ses fameuses nanas. Donc des personnages extrêmement gros, des femmes énormes, très très colorées. Donc si vous allez à Paris, devant Beaubourg par exemple.
En sculpture tu parles ?
En sculpture,
oui. Ah oui, devant Beaubourg, oui, exactement.
Devant Beaubourg, il y a la fontaine Stravinsky, et dans cette fontaine, il y a des mécaniques qui sont dans le bassin. Donc les mécaniques sont faites par Jean Tinguely, et puis les sculptures en fait sont de Nicki Tsinfal. Mais elle a fait énormément de choses en fait. Elle a fait des productions dans le monde entier. Elle a fait des jardins. Elle a fait beaucoup 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 de choses.
C'est un travail à la Botero ou pas du tout ?
C'est un petit peu les volumes à la Botero, mais c'est extrêmement coloré. Elle a des constructions qui font plus de 23 mètres de haut. Hein.
Ah oui.
Elle est allée notamment à Jérusalem à la demande d'Israël pour créer en fait une sculpture monumentale, hein, qui est une sculpture quasiment indestructible, parce que Tinguely, en fait, qui était ingénieur en bâtiment, en fait, a créé une structure métallique pour tenir cette sculpture de façon à ce que ce soit comme un bunker. Et donc ça a eu des surcoûts, personne ne comprenait pourquoi ça coûtait si cher, parce qu'il a mis des dizaines de tonnes d'acier pour que cette structure en fait soit armée et indestructible, puisqu'il savait qu'il y avait la guerre, etc.
Oui, c'est étonnant de faire une sculpture comme ça à Jérusalem, ouais. Avec
oui, ça a été
tout ce que ça peut apporter,
ça a été une commande,
de symboles.
Ouais. Ouais. Donc
c'est une commande publique.
C'est une commande publique, mmh. Et d'accord. C'est une commande aussi qui servait un petit peu. Donc dedans, on retrouve les trois religions sous la forme de trois langues,
d'accord.
Parce que ça sert de toboggan. Elle travaille beaucoup comme ça sur la matière. Alors elle a rencontré énormément d'artistes. Un artiste qui a été un déclencheur de son travail, c'est Gaudi.
Mmh. Avec, d'où les couleurs, peut-être.
D'où les couleurs, le travail sur les céramiques,
oui,
sur la forme.
Les volumes.
Ouais.
Voilà. C'est quelqu'un qui a été extrêmement fragile, hein, qui a été hospitalisé en hôpital psychiatrique pendant de nombreuses années, qui n'est jamais vraiment sorti indemne de ce viol et puis de cette violence qu'elle a eue, et qui, jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle est morte en 2002, a essayé de finir l'œuvre de Jean Tinguely. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois sculptrice, qui est à la fois qui a écrit beaucoup, qui était réalisatrice de films. Donc on peut trouver sur YouTube d'ailleurs des films qui traitent d'elle, hein, qui sont donc il y a eu plusieurs films qui ont été faits sur leur histoire à eux, des films aussi qu'elle a réalisés. Et donc c'est quelqu'un qui a été très généreux, qui a énormément produit toute sa vie, qui était aussi qui a eu une forme de révolte contre l'image de la femme. C'est pour ça ces grosses nanas en fait, c'est un petit peu une réponse, une provocation, voilà, au monde très masculin de notre société, bon, qui a évolué depuis, mais en même temps c'était quelqu'un de très engagé, mais sous une forme artistique. Alors aujourd'hui il y a plusieurs musées, hein, qui témoignent de l'ensemble de son œuvre, mais on a aussi un hommage qui lui est rendu aujourd'hui jusqu'au jusqu'en février 2015, donc au Grand Palais à Paris, qui fait une rétrospective un petit peu de son travail, de son engagement, de ses relations politiques, de sa vie en général. Elle a été très connue dans les années 65-70 par un acte qui était un acte un petit peu particulier, puisque avec Jean, elle avait créé des poches de couleurs. Donc elle réalisait des tableaux comme des bas-reliefs, en fait, avec des objets qu'elle récupérait, des poupées, etc., qu'elle remplissait de peinture. Elle les recouvrait de plâtre. Elle suspendait ses grandes toiles qui faisaient des fois 4, 5, 10 mètres de haut. Et ensuite, à la carabine, elle tirait dans ses œuvres. Et c'est ce qui l'a fait connaître, en fait, un petit peu en France et dans le monde. Et du coup, la peinture dégoulinait. Donc, elle a fait des performances comme ça. C'est des performances d'artistes. Et elle a créé comme ça tout un courant. Voilà. Donc, c'est ce qui l'a fait connaître. Puis après, elle est passée sur le côté rond, plastique. Elle a travaillé polystyrène. Elle a travaillé des matériaux assez nouveaux. Un des matériaux qui était le polystyrène qu'elle coupait à chaud avec un fil chaud et qui lui a valu d'être hospitalisée extrêmement malade parce qu'en fait, elle s'est brûlée les poumons avec les émanations toxiques. Donc, c'est une très, très grande richesse. C'est un art populaire. On la classe plus dans l'art brut, en fait. C'est pas quelqu'un qui vient des écoles de peinture ni de sculpture. C'est vraiment quelqu'un d'autodidacte qui ne savait pas faire de dessin, en fait, qui a commencé par faire des petits dessins, des petits gribouillis, etc., et qui a été encouragé énormément parce qu'elle avait une vision très particulière, une singularité dans l'expression qui a plu énormément à Tinguely et qui l'a énormément encouragé à développer ça. Et donc, en sa présence, elle a beaucoup, beaucoup produit, quoi, énormément de production. Et ça donnait l'ensemble de l'œuvre de cet artiste qui est extraordinaire, qu'on retrouve dans plein de jardins. Alors, il y a un jardin en Toscane où, en fait, il y a plus de 200 œuvres qui ont été créées par elle et lui dans la montagne. Et donc, on peut aujourd'hui découvrir dans la forêt, etc. Donc, c'est génial. On a découvert il y a très récemment aussi qu'elle avait été architecte, donc qu'elle a construit avec Jean Tinguely pour un riche une personne qui avait beaucoup beaucoup de moyens,
mécène,
en fait, un mécène, voilà, un riche mécène. Elle a construit une maison entière avec des formes comme ça où par exemple on rentre par le bas-ventre de la femme dans l'intérieur de la maison, il y a des circulations et tout est dans ces formes rondes très très colorées. C'est magnifique. Ça parle parce que c'est un art populaire quand même qui s'adresse aux gens, il y a une lecture directe, voilà. C'est pas compliqué, c'est pas complexe. Il y a plein de niveaux de lecture. C'est très utilisé aussi par nos amis enseignants parce que ça parle énormément aux enfants. Voilà.
Harry, alors, et moi, c'est quoi? C'est le thème de l'exposition?
Non, l'exposition, c'est vraiment Nikita Saint-Phal. Moi, je vais vous parler d'un livre en particulier qui est sorti. Il y en a beaucoup qui sortent en ce moment sur elle. Mais celui-ci s'appelle donc Harry et moi. Donc, c'est la période avant Tinguely, où elle était mariée avec cet Harry. Et donc, c'est la différence qui réédite, en fait, ses carnets personnels à l'identique.
Harry Matthews, c'était le
Harry
nom.
Harry Matthews,
voilà.
Oui, tout à fait.
Et donc là, c'est la période 1950-1960.
50-60, voilà. Oui. Et donc, en fait, on a ses carnets et avec ses dessins, avec son écriture. Enfin, c'est vraiment un bel objet. Et donc, c'est donc son journal intime, on pourrait dire. Et donc, ces années 50-60, pour elle, sont assez intéressantes parce qu'on découvre, en fait, le processus de quand elle commence, en fait, à créer, quand elle se rend compte que ça lui fait du bien, que c'est une sorte de thérapie pour elle. Il y a des moments très durs aussi où, voilà, elle raconte ses séjours à l'hôpital.
Elle découvre Gaudi en 55, c'est dans cette période-là. Donc, c'est vraiment les prémices de son art.
Tout à fait, oui.
C'est ce qui va la construire.
C'est ça qui est intéressant, vraiment, de voir, en fait, comment un artiste se construit. Et donc, c'est dans un style assez, assez naïf. Elle écrit vraiment comme si elle parlait, je trouve. Enfin, c'est oui, très agréable.
C'est un témoignage. Elle dit, par exemple, à cette époque, Harry et moi, on était assez distants, on ne se parlait plus, etc. Donc, c'est vraiment... Elle décrit des situations de vie, en fait. Même le rapport avec ses enfants, quand elle sort de l'hôpital. L'effet qu'ont les électrochocs sur sa mémoire. Elle a des pertes de mémoire. Donc, elle explique tout ça.
Immédiate,
donc, c'est vrai que quand on... quand on lit le livre, on est un peu dans une introspection. On se dit, mais ça va loin, c'est assez fort, quoi. On a l'impression d'être son confident, que c'est un journal intime, un petit peu. Et en même temps, c'est beaucoup de légèreté, et le fait qu'elle est animée, que les pages soient animées de ces coloriages, de ces dessins, de ces habillages de lettres, ça donne une légèreté et un côté où on a envie d'en savoir plus. Moi, quand j'ai lu le livre, après, ça m'a vraiment donné l'envie de fouiller et d'aller beaucoup plus loin. Je connaissais son œuvre, je vais à Beaubourg, à Paris, etc. assez souvent, je vois les œuvres, mais par contre, je connaissais pas toutes ses richesses, tous ses parcours. Donc, j'ai regardé des vidéos et vraiment, c'est un personnage fascinant.
Qui gagne à être connu.
Ah oui, qui gagne à être connu.
Et c'est vrai que c'est un livre, mais c'est pas du tout voyeuriste, quoi. C'est juste très intime, mais c'est intéressant.
Ah ouais, très 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 beau travail.
Elle a été précurseur de la nouvelle tendance de coloriage sur.
Oui, c'est vrai qu'elle coloriait les photos. C'est vrai qu'elle elle faisait beaucoup de collages aussi. Elle insérait des objets dans ses toiles au début. Enfin, ouais.
Alors il y a un premier ouvrage qui est dans la même collection, hein, qui s'appelle Traces et qui est sur la partie 1930-1949. Ouais. Voilà. Donc c'est en plusieurs tomes. Mais vraiment à découvrir, très très beau personnage, c'est bien écrit, c'est vraiment riche.
C'est une Française ?
Oui, elle est née en France, elle a vécu aux États-Unis.
C'est un pseudo, Nikki de Saint-Phalle, ou c'est vraiment son
patronyme ? Non, c'est vraiment son patronyme. C'est son nom, je veux dire, elle est née à Neuilly, voilà, dans les Hauts-de-Seine. Mm-hmm. Alors, elle s'appelait Nikki Phalle de Saint-Phalle.
D'accord, Nikki Phalle de Saint-Phalle. Ouais.
Donc, c'était un nom, voilà, un peu. Donc, elle l'a réduit, Nikki de Saint-Phalle, Nikki de Saint-Phalle, voilà. Elle est née. En 1930, voilà.
Ouais. Non, c'est pour ça. Ouais. Vu l'année de naissance, j'ai été étonnée de son prénom.
Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, ça s'appelle Harry et moi, les années en famille, Nikki de Saint-Phalle, 1950-1960, maison d'édition La Différence,
c'est oui, ça ? Oui, tout à fait. Ah,
je ne connaissais pas. Donc, un très beau livre.
Brochet.
Qu'on vous conseille, donc, et pour en savoir plus, n'hésitez pas.
Oui, ça peut faire un très beau cadeau aussi, je trouve. Hein. Mais comme tous les autres bouquins qu'on a vus tout à l'heure, hein, c'est des beaux livres qu'on peut offrir, quoi. Ça fera toujours plaisir.
D'ailleurs, Nico qui va offrir un des prochains livres dont on va parler, mais ça sera en dernière partie. Allez, on va parler maintenant jeunesse. Jeunesse, enfance, avec deux livres. On va en commencer par un livre...
Maya.
Maya qui aime les chiffres. Alors, je vais essayer de pas écorcher son nom. Ce n'est pas une contrepétrie. Romana Romanichin et Andriy Lessiv.
D'accord.
Tu parles très bien ukrainien.
Voilà, très bien. J'avais oublié leur nationalité. Merci Valérie. Des Ukrainiens. Donc c'est un livre chez Rue du Monde. Très très belle maison d'édition, hein, Nico.
Oui, on la connaît. Ouais.
Pour les enfants qu'on connaît.
Rue du Monde.
Alors c'est un très beau livre. Un livre qui fait le pari de donner aux enfants le goût des mathématiques. Donc pour vous dire, c'est vraiment pas gagné à la base. Donc Maya qui aime les chiffres avec des illustrations assez complexes à l'intérieur. Des très beaux dessins. Alors il y a des croquis, des graphiques, des illustrations qui sont au final raffinées, des détails un peu à chercher partout pour les enfants. Donc les enfants, au-delà de l'histoire, ils, à mon avis, vont passer beaucoup de temps dessus et regarder un peu tous les petits détails. Pour l'histoire, donc je vais vous lire le début de ce livre. Ce que la petite Maya aime par-dessus tout, c'est compter. Depuis qu'elle est bébé, elle baigne dans les chiffres. Il faut dire que ses parents sont mathématiciens. Maya compte les animaux du monde entier, les graines dans les coquelicots, les grains de riz dans son assiette, les pois sur sa nouvelle robe. Mais une chose intrigue cette petite fille curieuse, combien y a-t-il de grains de sable dans les déserts du monde et combien de gouttelettes d'eau contiennent tous les océans de la planète ? En regardant les étoiles, Maya imagine les poussières d'étoiles qui volent et elle essaie de compter ces microparticules. Face à l'immensité de la nuit étoilée, Maya réalise qu'il y a tellement d'étoiles que tous les nombres qu'elle connaît ne suffiront jamais à les compter. Donc alors pour dénombrer les quantités infinies d'objets, qu'aucune équation, aucune formule ne parviendra à l'aider à arriver au bout du mystère de l'infini, elle se réfugie dans les bras de sa maman qui va lui souffler la réponse. Et donc il faudra lire le livre pour la connaître. C'est un livre à partir de 5 ans aux éditions donc Rue du Monde qui propose une initiation onirique et ludique à la magie des maths. Maya aime les chiffres, un très 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 beau livre que tu as lu, Valérie.
Aussi, oui, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, j'aurais pas dit mieux. C'est les dessins sont très variés à chaque page. Ouais, il y a des très, collages, très de la cartographie, de la cartomancie. Et c'est, on passe des. On a l'impression que le livre est court parce qu'il a peu de pages. Mais en fait, chaque page est une découverte de beaucoup de choses à voir, à découvrir.
Beaucoup de temps sur chaque page.
Faire là, sur la page où tu es, ben, par exemple, le labyrinthe, les chemins et les enfants, en fait, quand on leur lit. Vont s'amuser à chercher chaque chemin, à tout regarder, à observer. Et il y a des histoires dans l'histoire de Maya. Et Maya est très touchante, même si elle aime beaucoup les maths.
Oui.
Bizarrement.
Bizarrement. Héloïse Rue du Monde, donc, qui donne l'occasion à des artistes d'Europe, d'un peu partout.
Oui, en fait, c'est une collection qui s'appelle Coup de cœur d'ailleurs. Et donc, c'est
un livre des cinq continents, c'est ça?
Alors, oui, c'est ça. Et donc, c'est l'éditeur donc, qui va chercher les petites pépites, les perles, en fait, qui sont éditées ailleurs. Et à chaque fois, ça donne des ouvrages magnifiques, que ce soit le Japon, la Suède. C'est des petits trésors.
Alors là, ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'on peut exploiter avec ses enfants aussi tout l'univers assez magique et très coloré et graphique qui est composé de plein de choses. On peut s'en tenir au texte, mais derrière, il y a quand même tout un travail graphique avec beaucoup de sens qui est donné, qu'on peut chercher avec l'enfant. Donc c'est vraiment un recueil assez polyvalent. On peut le traiter à plein de niveaux d'âge, en fait, je pense. Du jeune, très jeune public jusqu'au CM2, quoi.
Ouais. Donc voilà, on vous le conseille. Maya aime les chiffres, je ne rappellerai pas les noms des auteurs.
Romana et Andrei.
Voilà, nos amis Romana et Andrei, donc aux éditions Rue du Monde. Pour les enfants également, alors ça j'ai énormément aimé.
C'est l'histoire de Babar.
Toujours à Rue du Monde, c'est l'histoire d'un éléphant. Mais c'est pas Babar, c'est Monsieur Papa. Ah. C'est Monsieur Papa, il est 100 gouttes d'eau. C'est un livre
coréen.
In Kyung-no. Wow. Voilà, c'est ça.
In Kyung-no.
Alors, c'est un livre donc, sur un éléphant qui s'appelle Monsieur Papa, qui doit aller chercher de l'eau pour ses enfants qui ont soif. Ce sont des dessins assez minimalistes.
Des très très simples. Hein.
Très, en fait. Très très simples. Ouais. Donc, aucun rapport avec Maya. Moi, j'aime beaucoup ces dessins-là. Très simples, qui ont beaucoup de sens, avec très peu de traits, finalement. Et voilà, donc c'est en Afrique, il va chercher de l'eau pour ses enfants. Est-ce qu'il va en trouver? Je ne sais pas.
Suspense.
Moi, je sais.
C'est le suspense. Valérie, toi, pareil, tu l'as testé sur...
Alors moi, je l'ai testé au niveau graphisme.
Les
cobayes, les bons, on va les plaindre de devoir tester des livres. L'erreur que j'ai faite, c'est que je leur ai d'abord fait lire Maya. Ouais. Et dans la même journée, on a regardé Monsieur Papa. Donc, au niveau des graphismes, ça a eu un peu moins de succès. Par contre, au niveau de l'histoire, waouh, Super Papa, encore une fois, a mis sa cape de super-héros.
Pour une fois, tu vois, on est un peu mis en valeur.
Hein. Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est le combat de Monsieur Papa pour aller récupérer de l'eau pour ces petits éléphantaux qui sont adorables.
Mais c'est ce que tu dis est intéressant parce que moi je l'ai lu avant justement.
Ouais.
Et donc j'ai vraiment accroché dessus, peut-être même plus que Maya. Ouais. Si je l'avais lu après, ma démarche.
Mais je pense que ça s'adresse pas tout à fait aux mêmes tranches d'âge non plus. Hein.
Oui, c'est pour plus petits,
c'est pour beaucoup plus petits.
Voilà.
Puisque le graphisme est plus simple aussi, l'histoire aussi quand même.
Ouais. Mais l'histoire est belle, l'histoire
est très belle.
C'est magnifique. Vraiment, Monsieur Papa fait preuve de courage et de force pendant tout le livre.
Voilà, donc toujours à Rue du Monde, des écrivains, des dessinateurs, des illustrateurs étrangers, donc un illustrateur coréen cette fois-ci, Monsieur Papa. Voilà, un très beau livre.
C'était sympa parce qu'il y avait un lien en fait entre les deux livres par rapport aux gouttes d'eau. Dans Maya, elle essayait de compter combien il y avait de gouttes d'eau dans un seau, et on prend le livre d'après. Hop, Monsieur Papa veut compter 100 gouttes d'eau pour ses éléphants.
Comme quoi l'eau devient une denrée
importante. Oui.
Importante.
Je le sais très bien. Allez, avant de passer à la dernière partie où on va parler BD et également actualité avec le prix Nobel de littérature que tout le monde connaît qui est tombé dernièrement.
Cocorico.
Alors, un morceau que Héloïse a absolument voulu qu'on passe de cette grande chanteuse qui est Valérie Lemercier. Et qui nous interprète par rapport à la première partie de cette émission, Goûte mes frites.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pleuré. C'est encore lui qui récidive. T'as rien mangé depuis jeudi. Ce que t'as changé, ma petite brise.
Viens, goûte mes frites. T'as vu ce veau? Qu'est-ce qui t'a pris? Avec Véro, on te l'avait dit. Une cigarette de Pépito. Tu t'es retrouvé sur son frigo. Oublie le vide, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. Tu avant qu'il te colle toujours au cul. Moi j'en ai marre de te voir souffrir pour ce ringard en gilet cuir. Oublie le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites.
Voilà, quelle formidable chanson. Merci beaucoup, Héloïse, de nous faire connaître cette artiste Valérie Lemercier qui, en plus de nous faire rire, chante des chansons formidables. Ouais. Allez, notre rubrique BD interdit aux moins de 16 ans. Donc, on y a collé Nico, parce que lui, il a de l'expérience, il peut réussir à...
Sur les moins de 16 ans, je te remercie. Qu'est-ce que ça veut dire, Ludo?
Je dis ça pour lire des livres au-delà de 16 ans, tu arrives à prendre sur toi.
Ouais, il paraît que j'ai le droit, ouais, maintenant.
Voilà. Juliette en juillet de Joko.
Juliette en juillet de Joko. Alors, Joko, c'est un artiste, pas seulement dessinateur, c'est aussi un musicien. Voilà, c'est l'équipe au professeur Choron, hein. C'est tout cet univers où on a une écriture un peu virulente, décalée, provocatrice. Donc c'est à la fois un écrit, c'est à la fois un petit livre avec une vraie histoire, et puis beaucoup de dessins, un dessin très présent. Alors pas sous la forme d'une BD, mais sous la forme de pages de dessins entiers. Encre de Chine avec un dessin, voilà, un dessin qui est
moins de 16 ans.
Oui, si on peut pas le montrer à la marqué. Caméra, Héloïse.
Alors
je pense qu'elle a fait exprès de choisir cette page, mais
Héloïse a ouvert la première page, une femme dénudée entièrement.
Voilà. Alors, l'histoire est un peu abracadabrante. Hein. Moi, ça m'a fait penser à l'île du docteur Moreau. Quand j'ai regardé ça, ça m'a vraiment fait penser à ça, avec des monstres et puis un professeur fou qui, pour sauver la vie de sa femme, qui est devenue un monstre, en fait, en expérimentant des produits, il va transformer, parce qu'il est enfermé dans une prison, dans un château.
Oui, il est cloîtré. Oui,
il est cloîtré.
Je suis cloîtreau. Sauvez-moi, je suis cloîtreau. Pardon.
Ouais, non, mais il se moque. Alors Joko, lui, bon, c'est l'univers métal hurlant, c'est tout cet univers-là. Donc c'est vrai, c'est assez provoque. Les dessins, bon, aussi, c'est assez provoque, mais dans le dessin, c'est quand même assez affirmé. C'est assez, on dévoile quand même pas mal de la nudité. On parle du corps, de la présence du corps, de la difformité du corps, de la transformation des corps. Donc c'est vrai qu'on a des dessins avec des femmes assez pulpeuses, assez rondes. Hein. C'est,
oui, ça fait beaucoup penser à ce dessinateur américain qui s'appelle Crumb et qui vraiment met toujours en scène des femmes bien en chair avec.
Voilà. Alors c'est vrai que c'est aussi des dessins qu'on retrouve dans Rakiri, qu'on retrouve dans Charlie Hebdo, des choses comme ça, puisque bon, il travaille avec Professeur Choron. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé ce graphisme. Voilà, là c'est la transformation. En fait, c'est il transforme les hommes en animaux. Mmh. Donc c'est ce qui m'a fait penser au film L'île du docteur Moreau. Mais en même temps, les animaux sont transformés en hommes et deviennent des humanoïdes. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des scènes un peu, c'est un peu sadomaso ce bouquin.
Oui, tout à fait.
C'est du sado science-fiction.
Mais c'est pas sexuel. C'est-à-dire il y a pas de pornographie.
Il y a pas de pornographie
du tout. C'est vraiment pas du tout pornographie. Il y a simplement des dessins de femmes dénudées. Alors pas d'hommes dénudés, ce qui est peut-être un petit peu dommage de pas être allé aussi là-dessus. Mais voilà, il y a pas de scènes violentes et pornographiques. L'histoire est très particulière. Hein. On la suit, on essaie de connaître la suite, donc le livre nous tient quand même un petit peu en haleine et la particularité, je dirais, voilà, c'est vraiment ces dessins très finis
à langue de Chine,
voilà, langue de Chine ou feutre très fin, voilà, des pages entières, des doubles pages. C'est aussi un petit livre à offrir à un ami, à un collègue, à une collègue, et plus c'est affinité. Mais voilà, c'est un petit cadeau sympa à faire, hein, je trouve. Et c'est un livre qui est bien, bien fini, quand même. On est sur un papier épais, on est sur une belle couverture.
Il y a une belle fabrication.
C'est un livre de collection, quoi.
Et la maison d'édition est toute jeune, s'appelle The Uchi Kuchi.
Voilà, The Uchi Kuchi.
Alors c'est le côté, il faut le noter aussi un petit peu à Héloïse d'être sur des maisons d'édition pas forcément classiques, d'aider de jeunes maisons d'édition parce qu'elles le valent bien.
Tout à fait.
Et ces jeunes maisons d'édition, elles ont besoin qu'on les aide au démarrage pour qu'elles puissent exister. Alors souvent, elles se différencient par des formes, des projets que personne ne s'autorise à faire. Je pense aux éditions Vinous aussi,
oui.
En parlant d'elles. Mais voilà, ça, c'en est une aussi. Je trouve que c'est vraiment sympa. Il n'y a pas que Hachette. Et,
non, c'est important et c'est même très intéressant d'aller vers de ce côté-là.
Et donc, merci Louise pour ce travail que tu fais.
Pour le grand bonheur des lecteurs, découvrir des petites pépites, des perles.
Et en plus, en prime, je crois qu'Héloïse, tu offres des accessoires avec ce livre.
Cravache, banane en plastique, a priori.
Tout est en réserve, il faut venir voir.
Cravache et masque. Voilà, si vous n'en avez pas, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de magasins où on peut acheter ce genre d'ustensiles. Hein,
non, c'est vrai, oui.
Dans le sous-sol de la lorgnette.
Dans la cave secrète.
Allez, redevenons sérieux.
Juliette en juillet,
Joko, chez The Uchi Kuchi, qui doit faire référence à Muddy Waters, The Uchi Kuchi Man, certainement. Allez, on termine avec l'actu du jour, hein.
C'est le prix Nobel de littérature. Sur le Nobel, qui est français cette année, le prix Nobel de littérature, c'est Patrick Modiano. C'est une écriture très travaillée, c'est un écrivain qui a été très prolifique. Et c'est intéressant, oui, de lire. Il a écrit des nouvelles, il a écrit des romans, donc pourquoi pas découvrir cet auteur à cette occasion-là.
Voilà. 30 ans sans prix Nobel littérature française, ça se fait.
Oui,
en fait,
il y en a peu.
Le prix Nobel, ne récompense pas qu'un ouvrage, hein. Il récompense aussi l'œuvre de l'artiste,
oui,
c'est ce qu'il faut dire. Ouais. Donc, tu vois, tu peux pas prétendre un prix Nobel, Ludo.
Ah, mais non, je suis à zéro ouvrage, donc. Et c'est tous les ans le prix Nobel de littérature.
Oui, oui, oui.
D'accord. Et 30 ans qu'on ne l'avait pas eu, c'était qui le dernier, Valérie ?
Le Clésio.
Qu'on ne connaît pas non plus.
C'était. Quand même.
Pourtant, tu as dû un livre.
Ouais, il est souvent invité de la grande librairie.
C'était il y a 5 ans, je pense. Donc, c'est assez
30
récent.
Ans, 30 ans.
Le Clésio, moi j'étais avec, j'habitais à Aix-en-Provence.
Oui, mais aussi on n'a pas la même façon de compter les mois.
Oui.
Non, c'était il y a 5 ans le Clésio.
C'est ça, 5 ans c'est 30 ans pour Héloïse.
C'était en 2008,
ça fait 4 saisons fois.
D'accord.
À vérifier.
Alors ce qui est pas mal, c'est que voilà, on est dans une période un peu morose et que de se dire qu'on peut comme ça, que la France, avec sa création artistique, puis toutes les manifestations qu'il y a pu avoir cet été, sur en tout cas la place de l'art dans notre société, ça redonne un peu du baume au cœur, et puis ça réinstalle le fait qu'en France, on est quand même un pays démocratique dans lequel la création est très financée, il y a énormément de choses, c'est très structuré, et c'est une façon un petit peu de revaloriser ça aux yeux du reste du monde. Je trouve que c'est pas mal. Et puis aussi, c'est de dire à nos politiques qu'il ne faut pas diminuer les budgets dédiés à la culture.
C'est important.
Voilà. C'est un vrai poumon.
On a besoin d'autres Juliettes en juillet. Pour nous aider à gagner un peu cette morosité ambiante. Salut Nico, dans 2 semaines.
Soir, fais gaffe.
Ouais, je sais. Dans 2 semaines, Héloïse, pareil.
Salut.
On parlera de quoi, tu sais?
On parlera de romans ados. Enfin voilà, c'est pas encore tout à fait défini.
Ça sera la surprise. Salut Valérie, on va aller goûter cette magnifique tarte au pruneau, c'est ça? Que tu as préparé toute la matinée.
Avec un peu d'arsenic.
Et puis tous les sushis qu'elle a fait hier soir.
Voilà, maquis, tous les makis.
Maquis sushis. Voilà.
Allez, salut à tout le monde.
Merci,
dans 2 semaines.
Merci, bonne à bientôt.
Semaine.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Il y a plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.